Il y a quelques jours, le plan climat Kagnapisco a été présenté à la communauté de Fermont. Plan climat qui revient dans l'actualité puisqu'il doit être terminé d'ici la fin de l'année 2026. Et pour nous parler des étapes à venir dans ce dossier-là, je rejoins la porte-parole du côté d'Environnement Côte-Nord qui accompagne la MRC Kagnapisco dans l'élaboration de ce plan climat. Émilie Bourassa, bonjour.
Oui, bonjour Elisabeth.
Il y a quelques jours, vous étiez à Fermont pour venir justement présenter le plan climat Kagnapisco aux gens de Kagnapisco, aux gens de Fermont plus précisément. Une soirée qui marquait une étape de plus dans les démarches qui sont en cours pour l'élaboration de ce plan climat. On sait déjà ce que c'est parce qu'on en parle déjà depuis plusieurs mois, même voire quelques années, lorsque le financement avait été accordé en 2024. Qu'est-ce qu'il reste à faire au moment où on se parle avec ce plan climat là, d'ici la présentation du plan concrètement?
Bien, actuellement, l'équipe là, qui s'occupe du volet adaptation ainsi que l'autre équipe au volet atténuation, on est en train de tenter de faire un certain arrimage. Mais là, encore en date de cette semaine, là, à la suite de mon passage à Fermont, on finalisait le volet portrait du territoire, sonder les inquiétudes, recenser aussi le pouls de la population. Donc, c'est là où ce qu'on était. Maintenant, là, la prochaine étape, ça va être de compiler ces données-là, notamment aussi après le passage du sondage citoyen là, qui a été mis en ligne depuis la semaine passée. Alors, dans les prochaines semaines, moi, ça va être de procéder à l'analyse du risque, puis ensuite au traitement des données du risque. Ça consiste, là, grosso modo, à observer la vraisemblance, mais aussi le niveau de risque couplé au portrait du territoire pour vraiment faire une analyse qui reflète la MRC de Kagnapisco, mais aussi un peu plus localement les municipalités, là, Chefferville et Fermont. De ça va découler des réflexions là, qui vont être à avoir sur les actions à entreprendre, autant au niveau de l'adaptation que de l'atténuation. Quand je pense à des actions pour l'adaptation, c'est des mesures. Donc, ça peut ressembler à, par exemple, vouloir faire de la sensibilisation, éduquer la population. Encore, ça, c'est une mesure, c'est tangible, puisqu'ensuite, elle peut être mesurée et quantifiée. Quand on parle d'atténuation, mais ben souvent, c'est des cibles d'atténuation, là, des pourcentages, comme par exemple, ben, vouloir réduire 25% de nos émissions de GES, soit collectivement ou auprès des entreprises. Fait que tout ça, ça va être ensuite une analyse qui va être faite pour pouvoir soulever certaines de ces actions-là. Après, ben là, l'étape de la planification de la mise en œuvre, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on retrouverait aussi dans d'autres plans, que ce soit un plan d'adaptation, un plan climat ou autre. Là. On vient vraiment comme chercher à cerner la tolérance du risque de certaines de ces mesures-là. Le potentiel de qu'il soit pérenne aussi dans le temps. Parce que, comme ça a été mentionné, là, les plans climat, ben, le premier jet, il est pour un 10 ans. Donc, on veut que ce soit une démarche itérative, donc qu'elle soit revisitée au fur et à mesure de la démarche, puis on veut que ça soit surtout ouvert. Donc, on ne veut pas nécessairement fixer des cibles et des mesures qui vont être restreintes. On veut regarder la capacité d'adaptation progressive, voir comment on peut renforcer ces mesures-là. On veut voir aussi l'acceptabilité sociale. Des fois, on peut penser à quelque chose, mais d'un point de vue citoyen, c'est peut-être pas une mesure ou une étape qui pourrait bien passer. Fait que ça fait partie de la mobilisation aussi encadrée dans le plan climat. Après, pour plus spécifiquement là, la mise en œuvre de ces actions-là, ben il y a des coûts. Évidemment, là, il y a des coûts à observer puis à observer avec les municipalités à savoir s'ils sont implantables. Puis après, là, ben, c'est là qu'on peut faire la quête de sources de financement là, pour le volet 2. Parce que là, on parle du plan climat dans le volet 1, sous la tutelle du ministère de l'Environnement, lutte changement climatique, faune et parc. Mais le volet 2, il est sous la responsabilité du MAMH. Fait que c'est là qu'il va y avoir plus d'actions et de projets.
Lorsqu'on va voir un peu plus de résultats, en fait, par rapport à ce plan-là qui, pour l'instant, c'est toujours en création, en élaboration, là, comme je le disais d'entrée de jeu. Justement, le plan climat, ça a été un peu donné aux différentes organisations municipales par tout le Québec. Chez nous, c'est dans la MRC de Kagnapisco. On sait qu'il y a plusieurs organisations comme la nôtre à travers la région de la Côte-Nord. Environnement Côte-Nord, c'est quoi votre rôle dans cet accompagnement que vous faites avec les organisations municipales pour aider tout le monde, en fait, à élaborer le plan climat?
Oui, ben l'étendue de l'organisme d'environnement Côte-Nord, le nom il dit un peu, on est tout à l'échelle de la Côte-Nord, là, donc puis à l'actuel, quand il est sorti le financement là, pour les MRC, Environnement Côte-Nord a été sollicité pour la MRC de la Manicouagan, ainsi que là, jusqu'à tout récemment, on s'occupe aussi de la MRC de Sept-Rivières, plus pour le volet adaptation. C'est sûr que ça fait plus partie de notre expertise, étant donné qu'on a les ressources en action climatique, dont moi notamment, et en géomatique où je peux collaborer là, à l'élaboration de zones vulnérables via des sites qui permettent de faire des cartes. On appelle ça là, de la géomatique ou de la cartographie. On fait aussi au sein de notre organisme une communauté de pratiques qui vient viser à renforcer les capacités, les informations, les ressources aussi en termes de données géospatiales pour les cartes. Puis notre communauté de pratiques, là, elle est menée par notre directrice adjointe, là, Julie Valcourt. Puis on vient rejoindre beaucoup d'acteurs qui, en ce moment, collaborent pour faire les plans climat. Puis c'est super enrichissant parce que des fois, il y a tellement une régionalité au niveau de certains aléas qu'on peut se couper d'informations ou focusser sur autre chose. Mais bref, avec la communauté de pratique, je pense qu'on vient vraiment contribuer à l'élaboration des plans climat de plusieurs acteurs.
Puis c'est beaucoup de données à recueillir, beaucoup d'informations, de savoir qu'est-ce qu'on peut ajouter parce qu'il y a déjà des mesures en place dans certains endroits. Un des bons exemples qui est ressorti notamment de la rencontre à Fermont, la rencontre citoyenne d'il y a quelques jours, c'était le fait qu'on a un mur écran qui a été créé en fait pour combattre un peu les vents dominants. Donc c'est déjà une mesure en soi d'avoir une bâtisse comme celle-ci. Est-ce que c'est quelque chose de plus difficile d'aller justement trouver toutes ces données-là à travers toutes les communautés de la région, autant en Fermont, dans Kanyapsico, où est-ce qu'on a nos particularités, qu'ailleurs également, cette rivière Manicouagan, que eux, c'est des secteurs un peu plus côtiers, c'est très différent. Est-ce qu'il y a des difficultés ou des défis qui sont reliés à tout ça?
Oui, ben c'est sûr là, qu'au niveau de l'accessibilité à des données, avec le domaine universitaire aussi, c'est un gros mandat que nombreuses universités ont. Puis là, on est encore en train de chercher la véracité de certaines de ces données, mais tu sais, notamment quand on pense aux aléas côtiers, c'est l'UQAR qui est expert en la matière. Quand on pense ensuite à le partage de connaissances sur comment choisir telle mesure d'adaptation, ben il existe des plateformes faites là pour ça parce que c'est pas nouveau que on vit des aléas et des changements climatiques, mais donc on peut se fier à des sites internet, des plateformes, d'autres même rapports méthodologiques que ce soit dans le domaine de la science ou au niveau des municipalités ou des entreprises privées. Puis c'est ça qui est beau un peu dans la démarche, c'est qu'on commence par faire un premier jet, une identification comme préliminaire de, selon les résultats de l'analyse de risque, qu'est-ce qui pourrait être des mesures d'adaptation ou d'atténuation qui pourraient découler de ces analyses-là. Puis par après, ben là, on vient les prioriser. C'est là qu'on regarde la tolérance au risque, les capacités financières, l'acceptabilité sociale. Fait que puis ça peut se faire soit un peu plus en huis clos entre les municipalités ou ben non simplement dans la communauté de pratique en se conseillant, en s'écrivant. On consulte aussi le domaine de la recherche là, notamment dans nos rencontres de communautés. Ça arrive qu'on invite des experts là, ou des scientifiques.
Est-ce que le fait d'aller à la rencontre des citoyens dans les différentes localités concernées, nous, à Fermont, c'était pas il y a si longtemps que ça, est-ce que ça vient un peu complémenter ces informations, ces données, venir un peu plus les concrétiser également avec les gens qui vivent sur le terrain?
Et oui, absolument, oui, parce qu'on n'est pas que derrière nos ordinateurs ou derrière les livres. Comme qu'on veut que ces plans-là soient mis de l'avant, acceptés, puis reflètent réellement, dans le fond, ce qui se passe au niveau des différentes régions de la Côte-Nord, c'est évident, en tout cas pour moi, d'un point de vue personnel, c'est évident qu'il fallait consulter les citoyens puis les citoyennes. Puis en plus de ça, ben on entend des choses que peut-être à laquelle on n'avait pas pensé préalablement ou on réfléchit à la façon dont on pourrait les intégrer dans des mesures. Donc bref, c'est simplement, je pense, une des meilleures façons de se doter d'un plan d'action qui reflète des réalités locales.
Puis à Fermont, ça a été une rencontre citoyenne assez... en fait, il n'y avait pas énormément de gens là, qui se sont déplacés pour y participer. Est-ce que les données recueillies sont quand même suffisantes? Est-ce que vous consultez à nouveau la population? Est-ce que vous prévoyez le faire à nouveau plus tard? Je sais qu'il y a un sondage en ligne également. Comment vous prévoyez faire pour aller chercher peut-être davantage de gens?
Ouais, ben au niveau de la mobilisation là, c'est certain que ma collègue là, Pascale Castillo, qui s'occupe de l'élaboration du plan climat de la MRC Kinepsico, elle et moi, on s'attendait peut-être à un petit peu plus d'engouement, mais tu sais, c'est normal aussi. Puis on se dit qu'avec la qualité des échanges qu'on a eus, tu sais, vous l'avez constaté, là, on a débordé d'une demi-heure la plage horaire. C'était super enrichissant. Fait que je crois que de ce point de vue-là, en plus avec le sondage citoyen qui circule, ainsi qu'une boîte là, de suggestions de mesures d'adaptation qui est également en train de circuler à Fermont. Mais je pense que ça va être des données super concrètes qui vont venir agrémenter la démarche d'adaptation. À ce niveau-là, ça va être selon la MRC puis les partenaires, là, mais je regarde ça, puis les notes que j'ai prises de cette rencontre-là étaient juste exceptionnelles. Là, donc, je trouve que ça a beaucoup de poids.
Puis, est-ce qu'il y a des exemples de ce qui est ressorti de cette rencontre citoyenne, peut-être pas sans étaler l'entièreté de la chose, mais des éléments là, que vous avez justement trouvé intéressants qui vont peut-être se retrouver dans le plan climat éventuellement?
Oui, bien évidemment, là, tout ce qui était au niveau des perceptions quant à la faune et à la flore, c'est pas des données qu'on a des fois super accessibles quant au comportement, mettons qu'un chasseur pourrait aller voir. Donc ça, c'est pertinent à considérer dans le plan climat. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être écrit et que toutes les recommandations vont être recensé puis formulé de la même façon qu'un citoyen l'aurait prononcé, mais par contre, ça peut faire partie des recommandations pour des futurs projets puis des futures recherches. Parce que dans le volet 2, comme je mentionnais, c'est là où il y a un appel à projet, puis il va y avoir du financement disponible pour concrétiser des projets en soi, puis ça pourrait porter sur une inquiétude ou une observation qu'un citoyen aurait fait, notamment entre autres sur la faune. Donc, c'est là qu'on est encore à cette étape où ce qu'on essaye de compiler ce genre d'informations-là, mais n'empêche que le but était de consulter les citoyens et on va pouvoir s'en servir.
J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de ces sujets qui sont différents, qui sont intéressants, mais il va falloir choisir à un moment donné pour justement élaborer un plan qui est quand même clair et qui s'en va avec des objectifs précis. Est-ce que ça va être difficile de départager qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est à mettre en priorité?
Oui, c'est sûr que c'est tout qu'un mandat, les plans climat. Mais entre autres, là, avec l'instance qui nous encadre, non seulement le ministère, là, mais Uranus, qui ont élaboré un guide pour accompagner les MRC, les municipalités à élaborer ces plans-là. Puis une des recommandations pour justement faire l'identification d'objectifs concrets, c'était vraiment de se fier à un modèle SMART. Donc, de formuler là ces phrases pour être en mesure qu'elles soient réalisables au long terme. Mais c'est sûr que le projet de prioriser, quand on est surtout des personnes passionnées comme qu'on peut l'être en environnement, c'est sûr que c'est un peu difficile. Mais quand on se raccorde à une structure là, solide comme que offre les plans climat, ça devient un petit peu plus facile.
Puis au début de l'entrevue, vous nous avez un peu énuméré les prochaines étapes à venir, des étapes qu'on ne va pas voir là, nécessairement évoluer en tant que citoyen, comme public, mais à quel moment est-ce qu'on va avoir un retour concret de ce plan climat? À quel moment on va voir quelque chose avancer, les étapes avancer en fait?
Bien, c'est sûr que le volet là au niveau de la mobilisation puis de sensibilisation des acteurs, l'objectif c'est de continuer de mentionner les plans climat puis garder les citoyens au courant de la démarche. Là, ça pourrait se traduire par une autre entrevue, un autre sondage ou simplement une campagne de mobilisation sur les médias sociaux. Ça reste encore à déterminer, mais ce qu'on peut en tirer là de tout ce volet là, c'est qu'au final les informations qui ont été tirées, tous les acteurs, on en est reconnaissant. Fait que ça ne sera pas dans notre intérêt de continuer de travailler en huis clos, ne serait-ce que la beauté de la mobilisation, c'est de faire en sorte qu'on concrétise ensemble tout le monde un plan d'action pour le climat qui reflète nos réalités. Là.
Et je crois qu'il y a des informations également qu'on peut avoir accès là, sur notamment le site web de la MRC Kanyapsico. Il y a une page plan climat là, qui a été élaborée pour que les gens puissent avoir un peu plus d'informations.
Absolument, puis il y a d'autres informations qui vont venir via ce site Internet-là qui est en train de poursuivre son élaboration.
Émilie Bourassa, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire un suivi concernant le plan climat, un suivi post-rencontre citoyenne qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça là, du côté de Fermont. Plaisir de se reparler lorsqu'on aura davantage d'éléments à mentionner là, sur la suite du projet. Merci beaucoup.
Absolument, ça me fait plaisir. Merci.
Émilie Bourassa, chargée de dossier en action climatique chez Environnement Côte-Nord. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre de l'initiative de journalisme local.